Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous recevons l'islamologue Tayeb Suilef. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de venir nous faire l'amitié aujourd'hui pour parler notamment de la doctrine de Rumi, la doctrine soufie du mystique Rumi. Vous êtes traducteur, écrivain, traducteur de textes anciens, de textes mystiques, mais pas uniquement. Et vous êtes une des voix, si ce n'est la voix qui compte dans l'islamologie contemporaine. Et je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Vous avez fait une étude introductive à l'ouvrage de William Chittick qui, lui, s'intéresse et a mis en exergue la doctrine soufie de Rumi. Nos auditeurs connaissent sûrement, probablement, dû entendre parler de Rumi, mais peut-être qu'il y a toujours un déficit de connaissance de cet homme, de portée universelle en ce qui concerne sa pensée et sa doctrine. N'oublions pas qu'en 2007, l'UNESCO a consacré l'année 2007 qui correspond à... C'est le 800e anniversaire de la naissance. Comme étant l'année de la mystique de Rumi. Qu'est-ce qui vous a amené vous-même à vous y intéresser?
Jalal ad-Din Rumi est un des tout premiers auteurs mystiques que j'ai lus dans mon parcours quand j'étais, à la fin du lycée ou début de mes études universitaires. C'est un des tout premiers auteurs mystiques que j'ai lus dans les traductions d'Evad Vitré Meirovic, qui a tant fait pour le faire connaître en langue française. Et ça a été un peu, on va dire, une porte d'accès vers des aspects de l'islam qui, pour ma part en tout cas, n'étaient pas connus. Et je me disais, mais il y a tout un pan là de la culture islamique qui émerge et qui demande à être approfondi. Et donc, c'était vraiment une découverte, on peut même dire un choc spirituel, parce que tout à coup, il y a cette dimension de profondeur qu'on ne soupçonne pas nécessairement quand on est né musulman comme moi, qui a vécu dans une famille musulmane traditionnelle, typique. Et là, tout à coup, il y a un océan de compréhension, de sagesse qui commence à s'ouvrir. Alors évidemment, on découvre cela très progressivement parce que ça demande tout un cheminement. Mais c'est un peu comme ça qu'a été mon premier contact avec Rumi.
Comment expliquez-vous alors, Tayeb Suilef, qu'il a fallu quasiment, peut-être qu'il y a eu quelques tentatives avant, mais l'œuvre d'Evad Vitré Meirovic pour le faire connaître au public français ou à tout le moins francophone, pour ne pas être restreint uniquement au cadre de la France. Et pourtant, Evad Vitré Meirovic, c'est une trajectoire de vie qui se confond avec le XXe siècle.
Alors, si vous voulez, elle-même, en fait, découvre Rumi de façon un peu inattendue. Elle s'intéressait au poète Mohamed Iqbal, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». Et puis, elle découvre dans cet ouvrage des citations d'un certain poète mystique qui s'appelle Rumi. Et tout à coup, ça lui donne envie d'aller découvrir ce grand poète qui a un souffle mystique, bien sûr, mais aussi un souffle, qui invite à la renaissance intérieure, à la renaissance aussi dans le rayonnement qu'on peut avoir dans la société, le rayonnement qu'on peut avoir à l'extérieur. Et c'est surtout cela que Mohamed Iqbal avait retenu de Rumi, c'est ce souffle créateur qui l'amène, lui, à proposer un nouveau projet de société. Alors, Evad Vitré va découvrir donc Rumi, qui est à l'époque, dans les années 50-60, bien connu en langue anglaise, parce qu'il y a le célèbre professeur Nicholson qui a traduit le Mathnawi, c'est-à-dire la somme poétique et mystique de Rumi en anglais, dans une très belle traduction anglaise, elle-même très poétique, ce qui a permis que le monde anglophone puisse vraiment apprécier Rumi. Et il n'y avait pas du tout l'équivalent en français, évidemment. Donc elle a été pionnière et il a fallu un certain temps, disons, pour que ces traductions françaises puissent toucher un public large. Quand on dit large, ça reste relatif. Ça n'est pas comparable avec ce qui existe dans le monde anglophone. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, Rumi est le poète le plus lu, toutes catégories confondues. Pas seulement poète mystique, mais vraiment de manière générale.
Justement, j'allais vous dire, comment se fait-il qu'un poète dont la prosodie, la versification, le souffle mystique, mais pas uniquement, est l'un des plus lus à travers l'histoire, quand je réserve cela uniquement aux langues véhiculaires de l'islam ou de la pensée et de la poésie islamique, c'est-à-dire l'ourdou, le persan bien entendu, et l'arabe, et le turc aussi. Et après, après Nicholson dans le monde anglo-saxon, et que finalement on le découvre uniquement au XXe siècle, avec Evad Vitremeovic, c'était aussi ma question. Maintenant, on rattrape les choses ou pas, ou on est toujours subjugué par son œuvre, y compris en français?
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'ouvrages de grande qualité qui existent en français. Les éditions Tesnim nous permettent aussi, avec cet ouvrage, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Et il y a vraiment, je crois, aujourd'hui, la possibilité de poser un regard sur lui, j'allais dire peut-être un peu plus juste, un peu plus près de ce qu'a été sa propre trajectoire. Parce que si vous voulez, le regard un peu d'Orient des rêves, qui a été très marquant au XIXe siècle et qui a continué un petit peu à animer un peu une certaine quête d'Orient, fantasme un petit peu la parole et le message des grands poètes mystiques persans. Quand on essaye de rentrer, et peut-être le ferons-nous un peu plus tard dans cette émission, quand on essaye de rentrer dans la trajectoire de vie de Rumi, on se rend compte qu'il y a en lui, comme dans beaucoup de grandes figures, je pense, quelque chose d'universel qui permet au lecteur de s'identifier à ce parcours. Évidemment, chez Rumi, c'est l'amour qui embrase le cœur et qui transforme complètement la personne. Alors chez Rumi, il s'agit bien sûr d'un amour mystique, d'un amour qui est lié à son cheminement vers l'absolu, vers Dieu lui-même. Mais il y a, je crois, quelque chose d'universel dans ce témoignage qu'il nous laisse, à savoir que lorsque l'amour s'empare du cœur, lorsque réellement l'amoureux est traversé par cette force extrêmement profonde, eh bien, il y a une sorte d'alchimie qui se passe intérieurement. Et c'est cette alchimie, le mystère de cette alchimie, que nous permet d'approcher Rumi et qui donc a évidemment une portée universelle.
Et l'éclairage que vous apportez dans cet ouvrage et la partie introductive à l'ouvrage de Tchitik, c'est que il y a là un ancrage dans l'enseignement mohammedien, dans l'enseignement spirituel. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à la lisière ou à l'orée ou à côté de l'enseignement fondamental premier du prophète de l'islam. Et surtout, c'est aussi un éclairage pour une véritable clé de compréhension de qu'est-ce que c'est que vous venez d'en parler, des voies de l'amour tout court. Rappelons, Taïeb Suirev, que cette émission, et nous la faisons ensemble, est diffusée deux jours avant le 17 décembre, qui est la date communément admise de la mort de Rumi, le 17 décembre 1273, et qui est considéré comme une noce. Lui-même disait que ça va être une étreinte amoureuse dans la vie éternelle. Et un mot peut-être, si vous voulez bien, pour nous dire pourquoi est-ce que cette date-là est considérée par ses disciples et ses continuateurs comme une noce.
Alors, lorsque Rumi a été touché par la maladie vers la fin de sa vie, donc il meurt, hein, vous venez de le rappeler.
Après 40 jours, disons, en gros, de maladie ou d'agonie.
Tout à fait. Nous sommes en 1273, en décembre 1273, et évidemment, ses disciples, les gens qu'il aime autour de lui, souhaitent son rétablissement et lui souhaitent même un prompt rétablissement. Et il a cette phrase magnifique qui montre à quel point son cheminement intérieur a été intense, où il dit « Lorsqu'entre l'amant et le bien-aimé, il n'y a plus qu'une chemise de crin, ne voulez-vous pas que la lumière s'unisse à la lumière ?» Et cette union de la lumière intérieure, celle que peut porter le cœur, avec la lumière divine, est effectivement considérée comme des noces mystiques. Et Rumi voulait que sa mort soit l'occasion, non pas de pleurs et de tristesse, mais d'une certaine joie liée à ces noces mystiques. Et d'ailleurs, cette commémoration de chaque année, qui a lieu le 17 décembre de chaque année, est appelée Shabi Aros, ce qui veut dire donc les noces mystiques. Et alors, c'est vraiment l'apogée ou le paroxysme de tout son cheminement. Il y a cette fameuse phrase qui dit que philosopher, c'est d'apprendre à mourir. On pourrait dire que tout le cheminement spirituel de Rumi a été la préparation de ces noces mystiques qui culminent donc à ce moment-là. Sa vie est marquée par une série d'étapes spirituelles qui l'approchent toujours un peu plus de cette lumière divine à laquelle il a tant aspiré.
Alors nous allons faire connaissance effectivement avec l'homme en décrivant sa vie d'une manière très sommaire, bien entendu. Il est né à Balkh, dans Transoxiane, pour faire simple, en septembre, le 30 septembre 1207.
Balkh, c'est la plus ancienne ville d'Asie centrale, donc c'est l'antique Bactre, donc qui est déjà connue, hein, dans la culture grecque. Et c'est une ville où la culture, où l'héritage de la pensée est très présent, et Rumi, et la famille de Rumi, est une famille où la connaissance, où la culture, où le savoir est très présent.
Son père a fait une bonne alliance, si je puis dire, parce qu'il est le gendre de l'émir local.
Tout à fait.
Donc, ce qui fait que ça fait de sa famille une famille, sinon patricienne, mais en tout cas une famille à la fois de savoir et proche du pouvoir.
Oui, tout à fait. Et donc, ils ont une position, évidemment, assez importante à Balkh. Seulement, après quelques années de voyage, où Rumi voyage avec son père Bahaeddin, quand ils reviennent donc à Balkh, Rumi, dans son adolescence, bon, disons qu'il a à peu près 15 ans, voit la ville qui est progressivement détruite par les invasions mongoles, et son père prend la décision de quitter cette région natale pour aller s'installer à Konya, dans la Turquie actuelle. Et cette région, disons, du monde était sous domination seldjoukide. C'était le sultanat de Rome, d'où le surnom de Rumi, le byzantin, si l'on veut, hein. Rumi n'étant pas du tout un nom de famille, évidemment.
Et il a fait quelques voyages parce que, d'abord, avec son père, il est allé accomplir le pèlerinage très, très jeune pour lui, mais pour son père, c'était aussi un pèlerinage à la Kaaba, à la Mecque. Mm-hmm. Et l'installation à Konya, tout près de Konya, mais à Konya, c'était à la demande de l'émir Seldjoukide, ou c'est parce que c'est là où il a dû arrêter ses pérégrinations, fuyant un peu la dévastation occasionnée par les invasions mongoles.
Oui, disons que le père de Rumi cherche une autorisation et une forme de protection aussi dont il a besoin, mais il cherche aussi un endroit où son savoir sera reconnu, où on lui permettra de continuer à enseigner. Donc il est théologien, il est aussi un mystique, c'est-à-dire un maître spirituel qui a des disciples. Son école spirituelle remonte à Ahmed al-Ghazali, le frère du fameux al-Ghazali, du grand al-Ghazali.
Voilà, al-Ghazal des latins.
Exactement. Et donc, il souhaite aussi s'installer dans un endroit où son savoir sera reconnu et où on lui permettra de pouvoir vivre avec ses disciples, où il pourra retransmettre son enseignement. Et c'est ce que lui permettent donc les Seldjoukides dans cette région.
Alors, on rapporte qu'il a refusé l'hospitalité à l'intérieur même du palais du sultan, de l'émir, parce que c'était un sultanat, mais il voulait avoir pour lui l'équivalent d'une madrasa, en tout cas d'un lieu où il dispense le savoir et la connaissance, mais aussi ses enseignements spirituels. Et on en a créé une ex nihilo. C'était pour lui qu'on avait construit
tout à fait. L'école. Exactement. Et donc ce grand théologien et mystique souhaite que son fils, que le jeune Jalal ed-Din, marche sur ses pas. Et il a à cœur d'abord de lui transmettre une éducation dans les sciences exotériques, dans les sciences du Coran, du Hadith, de la jurisprudence. Et c'est une formation donc qui va être extrêmement complète dans l'ensemble de ces disciplines, avant même de l'initier à la voie mystique et avant même de lui transmettre donc cet enseignement spirituel. Et on comprend à travers l'éducation que lui donne son père que la voie soufie, la voie mystique, va de pair avec une solide formation et une solide connaissance des autres disciplines de l'islam. Elle est comme un parachèvement, on pourrait dire, dans la tradition donc de son père. Et malheureusement, son père donc décédera avant d'avoir terminé l'éducation spirituelle de son fils. Et c'est un disciple de son père, Burhan ed-Din Muhaqqiq, qui va continuer.
Que veut dire Muhaqqiq ? C'est le vérificateur, celui qui atteste de la véracité.
C'est cela. Le Muhaqqiq, c'est celui qui a réalisé, qui a donc vécu quelque chose, un enseignement, un savoir, non pas simplement donc une érudition extérieure, mais vraiment par un vécu intérieur. Et Burhan ed-Din donc est certainement, nous disent les chroniqueurs, le meilleur disciple du père de Jalal ed-Din Rumi, celui qui est le plus avancé spirituellement. Et il prend en main le jeune Jalal ed-Din et lui dit: ton savoir exotérique, l'ensemble des disciplines que tu as étudiées, tu ne les maîtrises pas assez. Et tu vas aller auprès d'autres savants, d'autres théologiens, d'autres juristes pour approfondir encore cela. Et donc il l'envoie à Damas et à Alep pour approfondir cette connaissance pendant de longues années. Et c'est seulement à ce retour de ces études complémentaires à Damas et à Alep qu'il va le faire entrer en retraite spirituelle. Et lui dire, maintenant que tu as le savoir extérieur, tu te dois de découvrir la connaissance intérieure. Et donc la retraite spirituelle, c'est une retraite de 40 jours. Et on rapporte que il a donc demandé à Jalal ed-Din Rumi de faire 3 retraites consécutives de 40 jours, ce qui est très intensif et ce qui est très, évidemment, très marquant intérieurement. Et on voit donc à quel point Burhan ed-Din voulait un grand destin spirituel pour le fils de son maître.
ensemble sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de la doctrine soufie, du poète mystique Rumi, Jalaluddin Rumi, avec Tayeb Suiref. Tayeb Suiref est islamologue, traducteur, écrivain, et c'est lui qui nous a introduit l'œuvre de William Chitty consacrée justement à la doctrine soufie de Rumi. Ne lui en savons gré. Et pour cette deuxième partie de l'émission, Tayeb Suiref, pouvez-vous nous raconter dans les pérégrinations, dans l'itinérance à la fois spirituelle mais aussi topographique dans ces différents voyages, sa rencontre avec Dr Maximus Ibn Arabi, le plus grand maître, à Damas?
Alors, on vient de le voir, Rumi a passé du temps à Damas. Selon certains historiens, il est très probable que Rumi ait rencontré Ibn Arabi, ce grand mystique andalou installé à Damas et qui mourra à Damas en 1240. Mais il n'y a pas de traces, si vous voulez, indiscutables. Il n'y a pas de certitude. Ce que les historiens rapportent, c'est que quelqu'un qui avait la curiosité du jeune Rumi, quelqu'un qui avait la soif spirituelle du jeune Rumi, n'aurait pas pu manquer de rencontrer cet homme qui rayonnait déjà beaucoup à Damas. Mais voilà, nous n'avons pas de traces et nous n'avons pas de certitude. Alors il y a un témoignage qui nous dit que Ibn Arabi aurait aperçu le jeune Rumi avec son père, marchand, et se serait écrié « Oh, quelle merveille, voici un océan qui suit un fleuve ». Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'il y a une grande affinité entre les deux œuvres. Il y a une différence de ton, bien sûr, il y a une différence dans la façon d'exposer les choses, mais il y a vraiment une grande affinité intérieure. Et c'est la raison pour laquelle William Chittick, donc l'auteur de l'ouvrage « La doctrine soufie de Rumi », c'est la raison pour laquelle, quand il explique tel ou tel thème présent dans l'œuvre de Rumi, il a parfois recours aux exposés d'Ibn Arabi pour les éclairer. Et il justifie cette position en disant que, dès le XIVe siècle, tous les grands commentateurs de Rumi avaient recours au texte d'Ibn Arabi pour éclairer tel ou tel passage des poèmes de Rumi ou de ce livre en prose qui s'appelle « Fihi ma fihi » et traduit en français sous le titre «
Le livre du dedans ».
Exactement.
Parce que, littéralement, c'est « il y a » ou « il recèle ce qu'il recèle » ou « il a dedans ce qu'il y a dedans ».
Tout à fait.
Maintenant, passons, si vous voulez bien, Tayeb Suiref, à sa rencontre, à la rencontre, pour certains, avec Shamseddin, Shams de Tabriz.
Alors, c'est vraiment la rencontre qui a non seulement marqué Rumi lui-même, mais aussi marqué tous ses lecteurs, tous ceux qui ont été ses disciples, et encore aujourd'hui, ceux qui lisent quelque chose sur sa vie sont touchés à un degré ou à un autre par cette rencontre.
Qui est vraiment... en 1244.
Exactement. Rumi, donc, nous l'avons vu, est déjà un maître accompli quand, en 1244, arrive à Konya cet étranger qui avait la soixantaine, qui a l'air pauvre, qui n'a pas de fonction sociale bien établie et qui va bouleverser la vie intérieure de Rumi. Alors, ce qui est particulier, c'est que, en général, dans le soufisme, les bouleversements viennent avant la maturité spirituelle, viennent plutôt quand on est un novice, quand on est un salik, un cheminant.
Un itinérant.
Un itinérant, exactement. Mais là, on a quelqu'un qui est un muhaqqiq, justement, donc un être pleinement réalisé. Et ça, c'est très important à remarquer parce que l'amour que va porter Rumi à Shamseddin, le soleil de la religion, n'est pas de l'ordre de l'amour qui existe entre le disciple et le maître, mais plutôt le fait que l'un a servi de miroir à l'autre ou de révélateur à l'autre. Et lorsque Rumi arrive, et la première rencontre qui se passe entre eux, nous avons plusieurs témoignages qui diffèrent un peu dans la scène qui nous est décrite, mais qui nous donne, on peut dire, le même fond. Par exemple, nous avons le témoignage de son fils, Sultan Walad, le fils de Rumi, qui nous dit ceci. Un jour, Maulana, c'est comme ça qu'il parlait de son père.
Oui, c'est vrai, c'est notre maître.
Notre maître.
Oui. C'est le surnom qu'on donne à Jalaluddin
Rumi. Exactement. D'où Mevlana, donc en prononciation persane, et Mevlevi. Donc Maulana était assis chez lui, entouré d'élèves et de livres. Shamseddin entra, le salua, et désignant les livres, demanda « Qu'est-ce que cela ?» Mevlana répondit « Tu ne le sais pas. » À peine avait-il prononcé ces mots que le feu tomba sur les livres qui s'embrasèrent. Maulana demanda « Qu'est-ce que cela ?» Shams répondit « Tu ne le sais pas.
Oui. »
Et partit. Maulana quitta alors sa famille et se mit en route à la recherche de Shams. Alors ça, c'est une première version de la rencontre. Et il y a une autre version qui est très éclairante aussi, parce qu'elle est attribuée à Shamseddin lui-même, qui a quand même laissé quelques écrits. Et il dit « La première fois que j'ai parlé à Maulana, je lui demandais « Si Bayazid est sincère quand il dit qu'il suit l'exemple du prophète, alors pourquoi n'a-t-il pas agi comme lui ? Et pourquoi a-t-il dit « Gloire à moi » au lieu de dire « Gloire à toi » comme disait souvent le prophète, effectivement. Alors, parce qu'il était pur et qu'il avait une âme rayonnante, nous dit Shamseddin, il comprit immédiatement ce que je voulais dire. Il saisit mon propos dans toute sa profondeur. Il perçut où pouvait mener cette parole. La suavité de cette parole le rendit ivre, alors que je ne m'en étais pas rendu compte moi-même. Cette ivresse attira aussi mon attention sur la suavité de ma propre parole. » On a, dans ces deux versions un peu différentes, finalement le même fond, à savoir le dépassement d'une connaissance extérieure, symbolisée par les livres dans la première version, celle du fils de Rumi, et symbolisée ici par ce qu'on peut appeler l'adab, donc la bienséance envers Dieu, où il faut toujours mettre Dieu au-dessus des créatures. Et alors, Shamseddin bouscule les certitudes religieuses et théologiques de Rumi en lui parlant d'Abouizid al-Bistami, ce fameux mystique du 9e siècle, originaire lui aussi de cette région du monde, du Khorasan. Et dans les deux cas, en fait, on a le même résultat, c'est-à-dire que le savoir extérieur est comme transcendé de manière très brutale, de manière très soudaine, et Rumi se rend compte que ce qu'il porte en lui-même va être révélé par ce miroir qu'est Shamseddin. Et ce qui fait naître un amour extrêmement fort, un amour qui peut paraître passionné, disons, de l'extérieur, et comme le dira Rumi, qui est au-delà des mots, au-delà de toute description. Et malheureusement, cette proximité spirituelle, cette complicité et fraternité quasi fusionnelle, eh bien, sera de courte durée.
Oui, nous verrons ça tout de suite. Simplement, j'ai une question pour vous, Tayeb Suilef. Dans la version de Sultan Valad, donc celle du fils de Rumi, il y a une traduction qui est lorsque Shams de Tabriz pose la question à propos des livres, la réponse n'était pas « tu ne sais pas », c'était « tu ne comprends pas ». Mm-hmm. C'est que c'est pas une question de savoir, c'est une question de percevoir et comprendre le contenu. Et quand il y a eu ce geste qui a embrasé les livres, Rumi naturellement s'exclame « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et la réponse était « tu ne comprendras pas ». Et donc c'est davantage une question de compréhension qu'une question de savoir. Et c'est là où le cœur de Rumi s'est embrasé et puis il a tout laissé tomber pour aller suivre pour cette complicité confraternelle et cet amour réciproque entre les deux êtres qui va être tragique au fond puisque c'est de courte durée et Rumi sera inconsolable d'un chagrin immense et après il pourra transcender peut-être cette souffrance.
C'est cela, tout à fait. En fait, Rumi va expérimenter avec le lien qu'il a avec Shams cette clarté intérieure où sa propre spiritualité lui est révélée dans le miroir de Shams. Et évidemment, cela crée en lui un besoin, j'allais dire irrépressible, de la présence de Shams, parce qu'il a besoin de la médiation de Shams pour avoir accès au propre trésor spirituel qu'il porte en lui. Alors on parle de jalousie des disciples de Rumi qui ont fini par le faire fuir une première fois. Certains chroniqueurs nous parlent même de menaces de mort qui auraient été proférées à l'encontre de Shams. C'est possible, toujours est-il qu'il fuit Konya pour retourner à Damas. Et puis, Rumi étant inconsolable, il envoie son fils, Sultan Walad, pour essayer de le faire revenir. Et Shams ed-Din reviendra quelques temps, quelques mois, pour à nouveau être dans cette compagnie, cette présence spirituelle avec Rumi, et puis finira à nouveau par disparaître, et cette fois-ci définitivement. Alors nous avons un très beau témoignage de Shams ed-Din lui-même, qui finalement explique, ou disons justifie, les raisons pour lesquelles il devait disparaître. Il dit, dans un texte qui s'appelle « Al-Maqalat », les dires de Shams ed-Din, « Je ne suis pas en mesure de te faire voyager, alors je prends sur moi la peine de voyager pour ton bien. » Il s'adresse ici à Rumi. « Car la séparation mûrit l'âme. » On comprend ici que ça n'est pas seulement la jalousie des disciples ou la difficulté à être dans sa présence à Konya qui le fait disparaître, mais bien plutôt la volonté d'amener Rumi à comprendre que ce qu'il trouve dans la présence de Shams, eh bien, se trouve en lui-même, au plus profond de lui-même, et que c'est dans la séparation qu'il pourra réaliser cela. Et on a là, je dirais, le cœur du message de Rumi. Lorsque Shams ed-Din donc disparaît, Rumi, dans un premier temps, va retrouver un autre miroir. Un autre miroir en la personne de Salah ed-Din Zarqoub, qui est un artisan. En fait, c'est un batteur d'or, c'est-à-dire donc quelqu'un qui fabrique des feuilles d'or très fines pour orner des objets, pour décorer donc. Et cet artisan n'est pas lettré, n'est pas savant, mais a cette même transparence intérieure que Shams. Et Rumi se dit, alors je vais avoir chez lui la même chose que ce que j'ai pu vivre avec Shams ed-Din. Et pendant un certain temps, il va reproduire cette relation en miroir avec...
Presque un transfert.
Exactement. On peut parler ici d'un transfert qui a duré une dizaine d'années. Mais Rumi, avec ce nouveau compagnon, avec ce nouveau miroir, commence à comprendre qu'effectivement, puisque Shams pouvait être mon miroir, alors lui il dit mon pôle spirituel, puisque Salah ed-Din peut l'être aussi, c'est bien qu'il n'est pas question de personne ici, il est plutôt question de quelque chose qui se trouve en moi. Et c'est à la mort de Salah ed-Din en 1258, avec son dernier pôle spirituel, qui sera Husam ed-Din, que Rumi va atteindre la pleine maturité et qu'il va écrire le fameux Mathnawi. Enfin, qu'il va réciter, déclamer,
et ses disciples consigneront par écrit. Je ne voulais pas vous interrompre, Tayyip Suilef, mais la disparition, presque dans tous les sens du terme, de Shams ed-Din de Tabriz, on ne la sait pas exactement. Est-ce que c'était un assassinat? Parce qu'on dit que, du point de vue factuel, quelqu'un est venu frapper à sa porte, il ouvre et puis on ne le retrouve plus. Mmh. Pourtant, il y a un mausolée qui est censé être celui qui a la dépouille mortelle de Shams et que même l'UNESCO plus tard l'érigera en patrimoine de l'humanité, patrimoine immatériel de l'humanité. Mmh. Qu'en est-il du récit, puisque la disparition de Shams, c'est celle-là qui occasionne dans un premier temps une souffrance indicible pour lui, parce qu'il ne sait pas pourquoi est-il parti.
Tout à fait, oui. Alors, comme souvent, dans la trajectoire de Rumi, il y a beaucoup d'incertitudes historiques, parce qu'il y a bien sûr quelques témoignages, mais il y a aussi tout un discours hagiographique, qui va aller en s'amplifiant à travers les siècles, si bien qu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre l'historique et le légendaire. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a, dans certains récits, allusion au fait que Shems aurait été assassiné, et d'autres récits plutôt que c'est une décision de la part de Shems, comprenant que c'est un besoin spirituel pour Rumi qu'il se retrouve seul, sans lui.
C'est une nécessité intrinsèque à la maturation.
Exactement. Parce que un des risques de cette relation en miroir, c'est d'absolutiser ce miroir et de perdre de vue tout ce que Rumi va enseigner plus tard, à savoir que le trésor caché se trouve au fond de l'être humain. L'être humain est cette créature particulière qui porte en lui la lumière divine, nous dit Rumi. Mais cette lumière, pendant très longtemps, il a le réflexe d'aller la chercher à l'extérieur. Et il faut passer par bien des tribulations pour enfin faire retour à soi et prendre conscience que finalement, cette lumière, elle est présente en moi. Mais j'avais besoin de ce détour par l'extérieur. J'avais besoin donc de passer par toutes ces tribulations afin de renouer avec mon être le plus intérieur. Et on a de très très beaux passages dans l'œuvre de Rumi qui évoquent la reconquête du trésor intérieur.
Ça me fait rappeler une histoire hassidique, celle-là, que j'emprunte au monde du judaïsme, où un vieillard indigent, n'ayant même pas de quoi subvenir aux besoins de sa famille, fait un rêve récurrent, comme quoi il va trouver un trésor, lui étant à Cracovie, mais il va trouver ça sous la pile d'un pont en face du palais impérial à Prague. Quand il entreprend le voyage d'y aller, le garde ou le chef de la garde impériale voit un peu son manège, le menace de l'incarcérer et puis lui dit « Non, j'ai fait une bêtise, j'ai obéi à ce qui m'a été dit dans ce rêve et j'aurais dû rester plutôt chez moi ». Et là, le chef de la garde impériale qui s'esclave de rire en disant « Ah, mais moi, j'ai écouté quelqu'un qui me disait dans un rêve que si je devais aller à Cracovie, voire dans le four de la maison d'un tel, ben, je trouverais un trésor. » Et il se trouve que c'était la maison de ce vieillard. Moralité, c'est qu'on a tous en soi un trésor bien caché, mais on ne le découvrira qu'en entreprenant un voyage et une rencontre avec autrui.
Et alors Rumi donc expliquera que quand on renoue avec ce trésor intérieur, alors tout à coup on devient capable de percevoir les trésors qui se trouvent à l'extérieur de nous. Il dira par exemple que le Coran est un grand trésor spirituel qui ne s'ouvre qu'à celui qui est lui-même ouvert à son propre trésor intérieur. Il a cette belle image où il dit, condamner ceux qui ont une lecture très littéraliste du Coran, il dit « Il est malheureux d'aller jusqu'à l'océan pour n'en tirer qu'une cruche d'eau, alors qu'on y trouve des perles et toutes sortes de choses précieuses. Mais ne trouvera les perles que celui qui plonge dans la profondeur. » La profondeur du Coran, comme la profondeur des enseignements du prophète Mohammed, sont pour Rumi accessibles seulement suite à cette ouverture intérieure, seulement suite à cette reconquête du trésor intérieur. Et on dit parfois que le Mathnawi, donc son grand ouvrage en vers, est une sorte de commentaire perçant du Coran.
شهد شکر گردد جگرها خوشد تا یک پسر مثل پدر گردد جگرها کن شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du poète mystique Rumi, Jalaluddin Rumi, la majesté de la religion, avec l'islamologue Tayeb Suilef, qui est aussi traducteur, écrivain, introducteur de l'ouvrage de William Chetik, La doctrine soufie de Rumi. Voulez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît, Tayeb Suilef, d'abord sur William Chetik lui-même, notre contemporain en tout cas,
tout à fait,
qui est féru de voix soufie, d'enseignement. Il a composé 25 livres, une centaine d'articles. Comment était-il lui-même amené à s'intéresser à ce qui se passe en Asie centrale, du point de vue de la mystique islamique?
Alors, William Chetik est né à Milford, dans le Connecticut, aux États-Unis, en 1943. Et puis, assez tôt, il fait des études de langues orientales. Et il a ce souhait de pouvoir apprendre les doctrines orientales dans leur terreau d'origine. Et pour cela, puisqu'il s'agissait pour lui donc de l'islam, il se rend en Iran pour apprendre auprès de maîtres traditionnels, aussi bien qu'à l'université de Téhéran. Et il soutient en 1974 son doctorat de littérature persane, qu'il obtient brillamment, et devient enseignant à l'université de Téhéran. Il enseignera quelques années et partira un peu avant la révolution de 1979. Et à partir donc du début des années 80, il enseigne à l'université Stony Brook, donc qui est rattachée à l'université d'État de New York, et il va fournir un certain nombre d'études qui vont devenir vraiment des références en langue anglaise sur Rumi et sur Ibn Arabi aussi. Et le centre de la centaine d'articles scientifiques qu'il a publiés aussi, c'est de montrer en quoi la diversité des modes d'expression qui existent entre Ibn Arabi et Rumi recèle quand même une communauté de perspectives spirituelles, recèle quand même un cœur commun. Et dans ce livre, qui est vraiment son premier ouvrage, qui a apparu dans une première édition en 1974, puis une seconde édition en 2005, il a vraiment essayé d'offrir en une centaine de pages, donc c'est un ouvrage assez court, l'essence de ce qu'il pense être l'enseignement donc de Rumi. Et je trouve que c'est très enrichissant d'avoir ce regard de quelqu'un qui connaît aussi bien la mystique persane que la mystique d'expression arabe, donc celle d'Ibn Arabi, et qui fait toujours le va-et-vient entre les particularités des uns des autres et les invariants, et ce qu'il y a de commun dans l'expérience intérieure.
Revenons maintenant plutôt au maître Maulana, notre maître, c'est la traduction même de la dénomination. Son œuvre, elle est poétique, mais il a aussi une œuvre en prose.
Oui.
Vous avez parlé du Mathnawi. Comment explique-t-on par la suite l'ordre des derviches tourneurs et surtout l'importance de la danse, de la musique, lui qui dit des choses merveilleuses à propos du ney, du roseau quand il est coupé, enfin extrait en quelque sorte de son milieu et cette complainte. C'est ça qui va donner par la suite, je dirais pas le terme légende qui est totalement inapproprié, mais qui donne une assise à l'enseignement de Rumi, à sa doctrine.
Rumi, en fait, lorsqu'il compose le Mathnawi, on a dit tout à l'heure que c'est plutôt donc il déclamait des vers et son pôle spirituel, Husam ed-Din, les notait. Et parfois, ça pouvait durer toute la nuit, comme ça, des inspirations qui lui venaient. Et le tout début de ce Mathnawi, les 18 premiers vers ont été déclamés par Rumi à son disciple suite à une demande. Husam ed-Din lui dit, voilà, je m'occupe de vos disciples, mais avec des enseignements de Attar et de Sana'i, qui sont donc deux grands poètes persans qui ont précédé Rumi. Mais il faudrait que ce soit vos propres enseignements qui les nourrissent et qui nourrissent leur méditation. Et là, Rumi lui sort, dit-on de son turban, 18 premiers vers qui sont donc la complainte du roseau, où le roseau qui a été donc tiré de la jonchée se plaint de la séparation. Et cette séparation, on a dit tout à l'heure, qu'elle était finalement la voie par laquelle Rumi a pu renouer réellement avec son trésor intérieur.
La voie VOIE.
Exactement. Oui. On a vu que sans la séparation d'avec Shems, il n'aurait pas pu prendre conscience que finalement ce trésor qui lui semblait être présent en Shems, eh bien, était présent en lui-même. Donc la séparation est à la fois source de douleur, elle est ce déclic qui va mettre en chemin celui qui la ressent. Elle imprime une profonde nostalgie qui donc va faire naître une quête spirituelle. Elle est ce déclic du début de la voie, elle est aussi, on l'a vu pour Rumi, le remède par excellence, la thérapeutique par excellence. Et il est donc normal que le Mathnawi commence par la complainte du roseau et la complainte de la séparation.
Oui. Et Tayeb Suilev, ce qui est curieux pour une émission qui s'intéresse en principe à la doctrine soufie de Rumi, et nous avons passé davantage de temps sur l'homme, mais lui-même étant un océan qui suit un fleuve, pour reprendre la parole réelle ou supposée d'Ibn Arabi, donc de ne pas consacrer beaucoup de temps à la doctrine elle-même, mais très brièvement, et j'implore votre indulgence de vous demander ça à la fin de l'émission, en quoi consiste-t-elle et à la notion de l'homme accompli, l'homme parfait, l'homme universel, l'anthropos teleios, comme auraient dit les Grecs. Il y a ça, bien entendu, il y a les questions du dépôt de foi, le fameux dépôt sacré, si c'est le cas ou pas, c'est à vous de nous le dire. Et puis l'union mystique à Dieu, parce que on revient, on s'anéantit, où il y a une coalescence en Dieu. Et dernière question, comme ça vous aurez les quatre d'affilée, y a-t-il ou pas, parce que ça fait débat de nos jours, une limite à la connaissance rationnelle, puis laisser place à une approche expérientielle de la connaissance et qui n'est pas que rationnelle, elle est intellective. C'est par intellection qu'on peut connaître.
Oui, alors la doctrine ou les doctrines présentes dans les enseignements de Rumi ont essentiellement deux origines. Il y a sa propre expérience, cette richesse intérieure qu'il a pu découvrir dans son cheminement, et il y a les méditations du Coran et des hadiths rendues possibles par son expérience. C'est vraiment un va-et-vient entre ce qu'il porte en lui-même et le texte révélé, la méditation sur le texte révélé. Ce qu'il a vécu lui-même l'amène à essayer d'être un éveilleur des consciences. On sent très souvent dans ce qu'il dit, qu'il essaye de faire pressentir à son auditeur, à son lecteur, que la trivialité du quotidien n'est pas le tout du réel et que la destinée humaine dépasse de loin les petits besoins du quotidien qui sont évidemment de pouvoir subvenir aux besoins primaires. Mais il veut vraiment donc faire prendre conscience à l'être humain qu'il est une créature très particulière dans la création, qu'il est au centre de cette création et qu'il porte en lui, pour cette raison-là, une amana, ce fameux dépôt sacré qui donc d'origine divine. Et il va laisser entendre que seul celui qui assume pleinement ce dépôt sacré est homme au sens fort du terme. Il est « el-insan el-kamil », on peut traduire plus ou moins par « l'homme universel », c'est-à-dire celui en qui s'accomplit vraiment le destin de l'humanité. Il est un grand porte-parole, disons, pour les autres. Mais Rumi est très conscient aussi que quand on commence un cheminement spirituel, eh bien, on part avec les données de la psyché humaine, c'est-à-dire avec des qualités, mais des défauts aussi, avec des limitations, avec parfois de la paresse, parfois un manque de sincérité, parfois de la jalousie, etc. Et donc, il n'est pas dans une sorte d'angélisme où il décrirait l'homme comme un être parfait, mais plutôt comme un être appelé au perfectionnement. C'est-à-dire que, certes, l'être humain est perclus d'imperfection, mais en même temps, il est capable de se perfectionner. Il est capable d'aller vers quelque chose de toujours plus lumineux. Et c'est vraiment ça, je crois, le centre de son enseignement. Et alors, il dira lui-même, et ça, c'est toute la thématique de mon introduction, de mon étude introductive dans l'ouvrage, il dira lui-même que celui qui a le mieux montré, pour lui, celui qui a le mieux montré cette voie de sortie des limitations et cette quête du perfectionnement, eh bien, selon Rumi, c'est le prophète Mohammed. Ce qui est très intéressant chez Rumi, c'est qu'on a un autre portrait du prophète. On a une autre approche de la mission prophétique où il nous montre en quoi le prophète Mohammed, qui a vécu 13 années à la Mecque, 10 ans à Médine, qui a eu des fonctions extérieures très importantes, est en réalité un maître de sagesse. Pour Rumi, il nous dit l'essentiel chez le prophète est sa fonction de guide spirituel. Et il va même plus loin, il dit sa fonction d'amoureux. C'est-à-dire que c'est un exemple d'amour. Et cet amour très profond que le prophète a pu vivre, que ce soit avec ses épouses, que ce soit avec certains compagnons comme Abu Bakr, dont on sait qu'il y avait une très grande affinité, eh bien, Rumi dira, c'est cela qui est précieux dans la biographie du prophète. Et quand on ne retient que les aspects extérieurs, quand on ne retient que les réalisations extérieures qu'il a pu faire, on passe à côté du message. Et donc, on a vraiment, pour Rumi, appauvrit la personne du prophète à travers les siècles et il essaye de lui rendre, disons, une certaine profondeur.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Taïeb Suileff. Une autre fois, vous reviendriez pour la réponse à propos des limites de la connaissance rationnelle. Nous n'avons plus le temps pour maintenant. Merci d'être venu nous parler de la doctrine soufie chez Rumi. Vous avez introduit l'ouvrage de William Tchitik qui est consacré justement à ce thème. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Julien Douminc. La réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.